Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai Aix-en-Provence de la BYD Atto 3. Est-ce que c'est la vraie concurrente de la modèle Y? On va essayer de vous en dire quelques mots. Pour ceux qui ne le savent pas, BYD, ce sont les initiales de la marque qui veut dire « Build your dream » ou « Réalisez vos rêves ». De mon côté, j'ai un peu traduit ces initiales par « But you dream ». Mais vous rêvez, vous allez voir pourquoi. En effet, si j'ai trouvé au global les produits de la marque plutôt bons, je trouve qu'il leur manque une chose. Mais commençons par le commencement. En préambule, il faut un peu parler de la marque BYD. Elle vient de Chine, elle est la marque numéro 1 des ventes de voitures électriques dans ce pays et du coup dans le monde. Et oui, devant Tesla, peut-être que ça va changer cette année. BYD est un immense conglomérat qui fabrique lui-même tous les éléments de ses voitures, moteur, batterie, contrôleur électronique. Lors de la conférence de presse, la marque se positionne d'emblée comme Access Premium et on le verra, les tarifs sont en conséquence. L'Atto 3, la Dolphin et la Seal qui arrivent sur notre marché cette année sont toutes les trois construites sur la même plateforme 3.0, avec en particulier une batterie dite Blade, on vous expliquera, unique sur le marché, et un ensemble moteur, transmission, chargeur embarqué, étage de puissance réunis dans une seule unité. Mais côté design déjà, nous voilà face à une auto à deux personnalités. À l'extérieur, il n'est pas méchant de dire que c'est très fade et que ça la ressemble à beaucoup de SUV actuels. Les cinq couleurs proposées sont elles aussi sans surprise et très très classiques, bleu, blanc, gris moyen, rouge, vert. Un point important reflète la qualité de la fabrication de la marque. Les peintures sont de très bonne facture et pourraient en remontrer à bien des marques premium européennes. L'Atto 3 mesure 4,45 m de long, ce qui la place plutôt dans le haut du segment, avec une habitabilité elle aussi plutôt au-dessus de la moyenne, surtout à l'arrière. Côté intérieur, l'ambiance est beaucoup plus fun. Des sièges au design très travaillés, des aumônières de porte façon corde de guitare, une poignée de porte ronde et design, ou des bus de ventilation en forme de disque. C'est sympathique, frais, différent et même agréablement coloré. Côté qualité perçue, c'est tout à fait dans la moyenne supérieure, surtout depuis que les marques premium allemandes font des économies sur leur gamme électrique. Sur les trois niveaux de gamme, la sellerie n'est ni en tissu, ni en cuir, mais réalisée en TEP. Appelé aussi cuir vegan, c'est-à-dire du bon plastique fait avec du pétrole. Démagogie écologique quand tu nous tiens. Étonnant pour autant de ne pas proposer de tissu, le TEP n'étant pas toujours très confortable, surtout en été. Pour autant, on est très bien assis à l'avant et les 6 axes de réglage des sièges électriques permettent une installation idéale. Nous ne ressentirons aucune gêne après 3 heures de route non-stop. Petite précision au passage, les sièges sont chauffants sur tous les niveaux de la gamme. De même, tous les niveaux de finition offrent un toit ouvrant panoramique, ce qui est un vrai plus en matière d'équipement. Côté coffre, on a droit à 440 litres à l'arrière et rien à l'avant, il n'y a pas de trunk, vous savez le coffre à l'avant, comme sur une Tesla Y par exemple. L'Atto 3 possède deux écrans, un grand central rotatif pour s'adapter à votre utilisation verticale ou horizontale et un petit situé devant le conducteur. Je suis un peu vieux jeu et j'ai donc laissé l'écran central à l'horizontale. Notre essai est un peu court pour tout découvrir et saisir l'avantage de disposer des deux positions. Précision importante, sur le premier niveau de gamme, le moins cher, l'écran n'est pas en 15,4 pouces mais en 12,8 pouces. Le premier écran devant le volant est donc un peu lui aussi petit. Certaines informations, panneaux de vitesse par exemple, sont parfois affichées en tout petit. On s'y habitue pour autant, comme aux commandes au volant plutôt classiques. J'aurais plus de mal avec la gestion de la remise à zéro du compteur de consommation. Il faut passer par l'écran central et pas par la commande au volant de l'ordinateur de bord. Pas évident. L'interface est plutôt fluide et logique au global. Il y a pour autant quelques réglages qui sont enfouis au fond de certains menus, mais rien de dramatique. Nous aurons par contre souvent la sensation que la carte GPS est décalée par rapport au timing de la route. Nous avons souvent fait demi-tour ou un tour de rond-point supplémentaire pour prendre la route souhaitée. Un détail, lorsque CarPlay est actif, les paramètres de la climatisation ne sont plus disponibles et il faut quitter l'application CarPlay pour y accéder. Une autre petite surprise étonnante, il n'y a pas de capteur de pluie. Côté ADAS, aide à la conduite, presque tout est là. Détection d'angle mort, régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de collision avant et arrière, assistance au maintien et au changement de voie. Nous n'avons pu contrôler la qualité de toutes ces aides. Nous avons fait un peu trop peu de kilomètres pour vraiment avoir du recul. Mais ça a l'air de fonctionner, ça n'était pas agaçant à la conduite. Au volant, l'ensemble est cohérent, en ville en particulier, avec une grande sensation de confort. Côté puissance, il y a ce qu'il faut, tandis que la direction se fait oublier tant elle est calibrée comme il faut. Comme sur la Han, à basse vitesse, la Tout 3 émet un zzz, censé caricaturer le bruit d'une voiture électrique pour avertir de notre arrivée. Je dois avouer que cela a plutôt eu tendance à me taper sur les nerfs. En effet, ce bruit est encore plus omniprésent sur la Tout 3 qui est moins insonorisé que la Han. Si l'on part sur autoroute, l'auto accélère et relance plutôt bien, mais l'on sent bien que notre auto pèse près de 1800 kg. En grande courbe, la suspension est plutôt souple, mais relativement bien contrôlée. Il est amusant de constater que la Han, la grosse berline que nous essayons par ailleurs, est chaussée en Michelin et que notre Atto 3, elle, est en Continental. Nous sommes bien loin d'être équipés de pneus bas de gamme. Si l'on passe en mode sport, nous avons la sensation que les accélérations sont plus vives, mais l'on sent le châssis qui se désunit un petit peu. Il n'est pas vraiment prévu pour être violenté. Clairement, le châssis version Chine a été adapté à l'Europe, mais cela reste une base très typée confort. Le mode sport n'est pas le positionnement de l'Atto 3, rendant peu choquant la configuration de châssis retenue. C'est peut-être sur petite route un peu bombée que nous avons ressenti les réelles limites de ces réglages. Si l'on appuie à fond sur l'accélérateur, la voiture a alors tendance à un peu louvoyer. De la même façon, en fonçant sur petite route, nous avons réussi à la faire un peu glisser de l'arrière, sans déclencher pour autant une intervention brutale de l'ESP. Enfin, en virage serré, sous forte accélération, il nous est arrivé de ressentir des pertes de motricité. La traction avant avec le couple de l'électrique n'est pas toujours facile à gérer. L'intervention de l'électronique pour couper la puissance est alors assez perceptible, ce qui n'est pas le cas de la majorité des SUV électriques que nous connaissons. L'Atto 3 annonce, et ça devrait correspondre, un 0 à 100 en 7,2 secondes et une vitesse de pointe de 260 km/h. Notre véhicule d'essai est équipé du gros moteur qui délivre 204 chevaux. La puissance est là, mais le poids, comme on l'a dit, les 1800 kg lissent les sensations. Cependant, ce niveau de puissance assez important permet de jouir de performances cohérentes, en particulier si l'on se déplace à 4 ou 5 avec un coffre bien chargé. Côté batterie, notre version est équipée d'une batterie LFP de 60,5 kW, 50 kW pour la première version d'entrée de gamme la moins chère. La technologie des batteries des BYD est spécifique à la marque. Ce sont des Blade batteries. Elles sont plates pour prendre moins de place et permettent donc d'abaisser le centre de gravité de la batterie. Elles sont beaucoup plus résistantes au choc et légèrement plus lourdes que des batteries classiques. Leur forme et leur montage sont conçus de telle façon qu'elles contribuent à la rigidité du châssis. Lors de notre essai, notre consommation oscillera entre 14 et 22 kW au 100. Un détail assez agaçant, l'ordinateur de bord ne donne la consommation que des 50 derniers kilomètres. Comme nous n'avons pas eu beaucoup de temps et de kilomètres à faire, nous n'avons pas pu réaliser de tests précis de consommation et de temps de recharge. Cependant, lors de notre essai, nous oscillerons, comme je vous l'ai dit, de 14 kW en ville, en roulant calmement, à 22 kW sur autoroute avec de nombreuses relances pieds dedans. Sur petite route, en alternant rythme cool et plus dynamique, nous naviguerons autour de 15-16 kW. Au final, l'Atto 3 semble avoir une très bonne efficience. Il faut aussi tenir compte de la température extérieure au cours de notre essai. Elle était plutôt idéale, 25-29 degrés, pour le fonctionnement de la batterie. Un point non négligeable quand on connaît la sensibilité des véhicules électriques à cet élément climatique. Enfin, un regret, même avec la régénération au maximum, que ce soit au lever de pied ou au freinage, la sensation de recharge est faible. Dommage pour une utilisation en ville où le mode One Pedal n'est pas si inutile. En parlant de température, avec 29 degrés à l'extérieur, la climatisation a eu un peu de mal à réguler la température intérieure. Nous avons été obligés de pousser la ventilation pour refroidir l'habitacle quand nous reprenions le volant après une séance de photo par exemple. Le très grand toit ouvrant, présent sur tous les niveaux de gamme, contribue sans doute beaucoup à l'échauffement de l'habitacle. Toutes les Atto 3 sont équipées de pompes à chaleur, mais zéro détail sur leur fonctionnement en été. J'aurai plus de détails lors de notre prochain essai longue durée sur ce sujet. En hiver, la pompe à chaleur BYD est supposée être très performante car elle exploite la chaleur résiduelle de l'habitacle, de la batterie et du moteur. Enfin, parlons prix. Tout ce que je vais vous annoncer est bien sûr hors bonus de 5 000 €. En entrée, 43 600 euros globalement avec un moteur 275 chevaux, une batterie de 50 kW et une recharge lente à 7 kW et un petit écran. Et après deux autres finitions qui sont entre 44 190 et 46 690 avec la grosse batterie de 60,5 kW, 204 chevaux, 420 km d'autonomie, une charge rapide à 88 kW et une charge lente à 11 kW. En cadeau pour le lancement, la marque offre une wallbox 11 kW gratuite, 3000 km de recharge gratuite et un entretien 3 ans ou 60 000 km gratuit. Et cerise sur le gâteau, la garantie est de 4 ans pour la voiture et 8 ans ou 150 000 km sur la batterie. Ça, c'est plutôt très très bien. Côté concurrence, eh bien c'est là où le, vous l'avez compris, là où le bât blesse un petit peu. Même si les distributeurs BYD, qui sont encore peu nombreux mais plutôt performants, auront sans doute, contrairement à beaucoup de marques, assez de marge pour faire de remises, les prix publics hors remise sont, dirons-nous, un peu ambitieux. Même en prenant en compte les plus que sont les cadeaux que je viens de citer et la garantie plus que généreuse. La première chose de la voiture dont il faut parler, c'est la Tesla Y, qui est plus grande, 4,70 m, 450 km d'autonomie, donc un petit peu plus, mais surtout 217 km/h en pointe, une charge rapide à 170 kW, un moteur de 275 chevaux, et elle aussi, un toit panoramique, un écran de 15 pouces, un double vitrage, une pompe à chaleur, et surtout un tarif de 45 990 euros avant la prime écologique. À la concurrence, il y a aussi bien sûr une Kia e-Niro qui, elle, se promène avec des PRF et un produit très comparable pour un tarif autour, lui aussi, de 45 000 euros. Et puis, si j'intègre aussi à la réflexion, une Mégane E-Tech avec un chargeur à ses 22 kW, ce qui est quand même un vrai plus en France, et avec un moteur avec une puissance qui n'est pas loin de 220 chevaux, à 44 000 euros. Et puis, j'ai rajouté ma petite chérie qui va arriver aussi, qui n'est pas une électrique, qui n'est juste qu'une hybride, une MX-30 hybride recharge, qui se recharge, mais qui aussi a un moteur thermique pour faire qu'on n'a pas de problème d'autonomie, qui va avoir 170 chevaux, qui a un look impeccable, qui a 600-700 km d'autonomie, et pour à peine, en intégrant le bonus 2000 euros de plus, c'est-à-dire pour 42 000 euros, vous avez aussi un grand toit ouvrant, une finition sympa, et une hybride qui ne pollue que 20 grammes de CO2 et qui est vraiment un bon produit. Donc ma conclusion, c'est que la BYD, ATO 3, c'est très bien, c'est bien. Mais aucun des éléments prix, produit, image de marque ou réseau de vente, je parle en termes de densité, ne lui permet vraiment d'offrir un plus par rapport à la concurrence. Seule la garantie peut faire vraiment à aujourd'hui la différence. Mais n'oublions pas qu'en Chine, une BYD globalement ATO 3, qui n'est pas exactement la même définition, mais quand même, se vend 18 000 euros. Donc la guerre des prix, elle est possible même si elle n'est pas pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller retrouver mon article de François Bouet et aussi une vidéo sur YouTube avec plus de détails, en particulier pour les descriptifs produits, des tableaux et les tarifs de la concurrence, sur le site d'une nouvelle automobiliste. À bientôt.